1% d'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est un exemple inspirant, à défaut de pouvoir être un modèle, au pied des Alpes, en Bavière. Le village de Wipotsried, 2600 habitants, produit 5 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme et il s'agit d'une électricité verte. Ce paysage innovant attire désormais de nombreuses sociétés. Reportage signé Pauline Curté.
Plantées sur les collines qui entourent Wipotsried, les 11 éoliennes blanches se sont intégrées au paysage. Lorsqu'il y a du vent, elles produisent une bonne partie de l'électricité de la ville, et même plus. Ces éoliennes constituent l'emblème des habitants du village. Ils sont plus de 300 à avoir investi dans leur construction. Ils en sont en quelque sorte les propriétaires. Aujourd'hui, ils en récoltent les fruits. C'est le cas de Thomas Pfluger. Ce développeur en logiciel informatique a investi 100 000 euros dans ses éoliennes au début des années 2000. Il récupère chaque année environ 6% de cette somme. Et cela le rend très fier.
Je ne regrette pas du tout mon investissement. En Allemagne, des gens disent que les éoliennes ne sont pas belles, qu'elles gâchent le paysage. Mais moi, je peux les regarder et me sentir fier. Je les aime. Et je préfère avoir des éoliennes dans ma région plutôt qu'une centrale nucléaire.
L'énergie produite par les éoliennes est vendue à un tarif fixé d'avance au fournisseur local d'électricité, d'où le bénéfice récolté par Thomas Pfluger et les autres investisseurs. Et le vent n'est pas la seule source d'énergie renouvelable exploitée par Wipotsried. Biomasse, géothermie et bien sûr solaire font partie du cocktail renouvelable adopté par les habitants. Martin Hartmann, 33 ans, a par exemple opté pour des panneaux photovoltaïques afin d'alimenter sa petite entreprise, une imprimerie très gourmande en électricité.
Je dois encore acheter une très petite partie de mon électricité, mais les bons jours, je n'en ai plus besoin. En moyenne, mes panneaux et une batterie qui stockent mes surplus d'énergie couvrent 90% de mes besoins. C'est impressionnant parce que mes machines utilisent beaucoup d'énergie.
Thomas Pfluger et Martin Hartmann l'admettent volontiers. S'ils ont investi dans le renouvelable, c'est parce que la ville les y a fortement encouragés. La mairie de Wipotsried veut en effet montrer l'exemple. Elle a elle-même investi dans les éoliennes et tous les bâtiments publics sont passifs. En d'autres mots, ils produisent autant d'énergie qu'ils n'en consomment. Certains génèrent même un surplus, bénéfice annuel pour la ville, 6 millions d'euros. Pour Arnaud de Saint-Gerlet, maire de Wipotsried depuis plus de 20 ans, l'implication des habitants dans ce spectaculaire tournant énergétique est la clé du succès de son village.
Prenez les éoliennes. Pour que les habitants les acceptent, il fallait qu'ils puissent profiter de leurs avantages. C'est le plus important. Si nous avions fait intervenir des investisseurs extérieurs, il n'y aurait pas eu cette connexion entre les habitants et les énergies renouvelables.
Le succès de Wipotsried lui vaut une renommée internationale. Chaque année, une centaine de délégations de diplomates, d'experts ou de journalistes venus du monde entier viennent le visiter. Des entreprises innovantes sont également venues s'y installer. C'est le cas de la Sonnen GmbH, qui produit des batteries destinées à stocker les surplus de production d'énergie renouvelable. Elle emploie 140 personnes à Wipotsried. Son PDG, Christoph Ostermann, explique pourquoi il a décidé de s'installer ici.
Il suffit de regarder par la fenêtre. Il y a des panneaux solaires sur tous les toits, des éoliennes. Forcément, ce concept d'indépendance énergétique, cela inspire une entreprise comme la nôtre. Et puis, cela nous aide pour notre publicité. Si nous n'étions pas à Wipotsried, vous ne seriez pas venu nous voir.
Pourtant, le maire Arnaud de Saint-Gerlet ne cherche pas à faire de sa ville un modèle pour d'autres initiatives. D'après lui, ce qui se fait à Wipotsried est unique.
Ce que nous faisons ici ne peut pas forcément s'appliquer ailleurs. Nous habitons dans une petite ville, nous avons de la place pour des éoliennes, des panneaux solaires. Ce n'est pas toujours le cas dans une grosse ville qui aura aussi plus de mal à mobiliser ses habitants autour d'un tel projet.
L'élu n'est d'ailleurs pas très optimiste pour son pays. Début juin, l'Allemagne s'est dotée d'un régime de subventions aux énergies vertes beaucoup moins généreux qu'auparavant. Mais il ne s'inquiète pas pour son village, qui a déjà amorti tous ses investissements dans le renouvelable. Il espère même que les infrastructures du village produiront, en 2016, 700% de l'énergie consommée par ses habitants.
We'll be proud to say, I am an European.
La polémique sur le burkini qui a sévi en France au sortir de l'été est-elle imaginable dans d'autres pays européens? La question de ce vêtement de bain très couvrant comme celui du voile musulman suscite bon nombre d'interrogations et d'incompréhensions, notamment dans le monde anglo-saxon. C'est ce que nous explique Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Cette affaire du burkini relance-t-elle le débat sur les signes extérieurs d'appartenance religieuse ?
Oui, bien sûr, même s'il n'est jamais évident de distinguer ce qui relève de la revendication identitaire ou de la religion. Le problème est de savoir jusqu'où aller dans le contrôle des comportements visant à afficher sa différence. Je vous rappelle que la loi de 2010, interdisant le voile intégral dans l'espace public, stipule bien que les signes religieux sont autorisés à condition de ne pas dissimuler le visage. Et ce qui n'est pas le cas avec le burkini. Aussi, le prétexte invoqué par les maires pour l'interdire est le trouble de la quiétude publique. Autrement dit, on se met à la place des gens qui sont choqués par l'expression d'une différence et on choisit d'éviter que l'exaspération de ces personnes ne débouche sur une violence jugée en quelque sorte compréhensible.
En France, les partisans de l'interdiction du burkini dénoncent une instrumentalisation du corps de la femme. Comment cet argument est-il perçu chez nos voisins, Daniel ?
Bien sûr, la culture occidentale est de nos jours révulsée par cette idée que le corps de la femme serait en soi impudique. Pour autant, une démocratie peut-elle, sans renier ses principes, interdire l'expression pacifique de conceptions opposées ? C'est un peu le vieux débat, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il y a deux semaines, l'éditorialiste du quotidien britannique The Telegraph n'hésitait pas à parler à propos de l'interdiction du burkini en France d'actes de fanatisme insensé, en expliquant que l'on peut vivre ensemble sans croire à la même chose. Le journal de gauche The Guardian appelle pour sa part à défier ce qu'il appelle l'idiotie, tandis que la BBC ironise sur la difficulté de distinguer dans un texte de loi général le burkini d'une combinaison de plongée. Plus sérieusement, le New York Times pointe une contradiction évidente entre le fait d'imposer des règles vestimentaires à une femme au motif qu'il n'est pas admissible que cette femme puisse se laisser dicter ce qu'elle doit porter. Bref, le scepticisme est grand en Europe et ailleurs sur le bien fondé de cette interdiction du burkini.
Il n'y a donc aucun autre exemple d'interdiction de ce type en Europe ?
Tout d'abord, précisons qu'en France, le burkini est très souvent interdit dans les piscines municipales pour des raisons d'hygiène, un peu comme l'est presque partout le caleçon masculin. Mais il existe par ailleurs des établissements qui autorisent expressément le maillot couvrant. Depuis plusieurs années, le burkini est également interdit dans la plupart des piscines en Belgique, mais il n'existe aucune interdiction concernant les plages. En Suisse, toujours par souci d'hygiène en bassin fermé, le burkini est autorisé seulement s'il est moulant comme un maillot. Cette restriction s'observe également au Pays Basque espagnol, où la ville de Victoria a interdit l'accès aux piscines aux personnes habillées, sauf si le vêtement est en lycra.
Et les restrictions ne concernent en Europe que les piscines ?
Oui, et presque toujours pour des motifs d'hygiène, à l'exception de quelques communes dirigées par des maires très à droite, en Italie, en Autriche ou en Bavière. Dans ce land allemand, le parti chrétien social au pouvoir estime d'ailleurs que cette question doit être laissée à l'appréciation des communes. Signalons quand même qu'il y a 7 ans, une commune du nord de l'Italie avait prohibé explicitement le burkini dans les piscines de la ville, mais également le long des cours d'eau. Or, le maire à l'origine de cette initiative fut condamné quelques années plus tard pour discrimination raciale. Actuellement en Italie, personne ne songe à prohiber le burkini sur les plages et le ministère de l'Intérieur s'est déclaré il y a quelques jours opposé à toute régulation.
Et y a-t-il des pays européens ouvertement favorables au burkini ?
On peut à cet égard citer la Norvège. Il y a quelques années, le maire d'Oslo a ainsi exprimé concernant les piscines une position totalement ouverte, dans la mesure où, disait-il, certains expriment le besoin de se couvrir. Quant à l'Allemagne, en dehors du cas particulier de la Bavière, la justice fédérale tendrait plutôt à recommander le port du maillot couvrant dans le cas où des parents musulmans refusent d'inscrire leur fille à la piscine. Ainsi, le tribunal administratif de Francfort a-t-il statué il y a 3 ans que l'assistance aux cours de natation était obligatoire dès lors que le port du burkini était proposé en guise de compromis. Enfin, bien sûr, au Royaume-Uni, où la coexistence des communautés est une règle intangible, aucune restriction au port du burkini n'est admise. Outre-Manche, on a même vu certaines femmes non musulmanes porter le maillot couvrant.
En conclusion, Daniel, on peut dire que la France est une parfaite exception en Europe dans ses velléités d'interdire le burkini sur les plages.
Absolument, Frédéric, la plage est par excellence un lieu de liberté et de détente aux yeux de l'ensemble des Européens. Le fait qu'une 30aine de maires en France ait cru bon de réglementer les tenues de main en dit long sur les tensions de nature identitaire qui agitent l'Hexagone. En outre, à ceux qui mettent en avant la condition féminine, de nombreux commentateurs au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie font remarquer que pour un certain nombre de femmes musulmanes, l'alternative au bain de mer en maillot couvrant, c'est de rester enfermée chez elles.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Leurs noms témoignent de la violence de leur lutte sans concession contre la mafia. Les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino ont été assassinés en 1992 par la Cosa Nostra. En Sicile, on peut désormais visiter leur bureau bunker transformé en musée. Cécile de Barge.
À première vue, c'est un bureau comme n'importe quel autre, si ce n'est que le temps s'est arrêté en 1992, année des attentats contre les juges anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Des murs clairs, de grands bureaux sombres, de vieilles machines à écrire, des bibelots en forme de canard et des paquets de cigares vides. C'est là que se sont installés les deux juges en 1983, entre le rez-de-chaussée et le premier étage du tribunal de Palerme, dans ce qui est en réalité un véritable bunker. Car à cette époque, les deux magistrats lancent ce qui restera la première grande offensive contre Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Les menaces de mort sont permanentes. Derrière la porte blindée du bureau, des caméras de surveillance pour contrôler les allées et venues. Dans un coin, deux vieux chèques confisqués à des hommes d'affaires véreux et un ordinateur noir et blanc sur lequel le juge Falcone tapait ses rapports. À côté, les 90 disquettes sur lesquelles il en avait fait une sauvegarde. Sur un fauteuil, un peu plus loin, des sacs blindés, destinés à se protéger la tête face à un tireur. Quant aux fenêtres d'où s'échappe une lumière pâle, impossible d'y voir le ciel, trop dangereux pour la sécurité des deux magistrats. Elle donne en fait sur un puits de lumière. Ses souvenirs et ses anecdotes, c'est aujourd'hui Giovanni Paparcuri qui les raconte. Cet ancien collaborateur des magistrats a écumé les archives et les bureaux du tribunal pour retrouver les meubles et les objets qui se trouvaient dans le bunker, tout ce qui faisait la mémoire des lieux dont il ne restait rien d'autre qu'un débarras il y a encore quelques mois. Le musée a été inauguré juste avant l'été, il est désormais ouvert à tous, sur rendez-vous.
Transparence, transparence. De la même manière que les députés européens doivent déclarer leurs intérêts financiers, les commissaires européens sont tenus de laisser à la collectivité les cadeaux qu'ils reçoivent. Ceux qui ne peuvent être vendus ou utilisés sont entreposés dans le sous-sol du bâtiment de la Commission à Bruxelles. Petit musée des horreurs ou caverne d'Ali Baba, comme on voudra. Petite visite guidée signée Olivier Henrion de la RTBF.
Toc. La clé dans la serrure, deux tours de clé.
C'est un lieu assez secret, placé sous la surveillance de Nicolas de la Grandville.
La lumière, parce que nous sommes dans la cave.
Le chef du protocole de la commission.
Et vous êtes dans ce que vos confrères appellent, quand ils s'y réfèrent, à la caverne d'Ali Baba. Il y a moins de trésors et je ne pense pas qu'il y ait de quoi faire rêver 40 voleurs. Voilà.
Cette caverne d'Ali Baba, c'est le lieu où sont entreposés tous les cadeaux que reçoivent les commissaires européens lors de leurs visites officielles. Comme vient de le dire Nicolas de la Grandville, rien de très scintillant ou clinquant, mais on y trouve quelques trésors, comme ce grand portrait de Gunther Verheugen, l'ancien commissaire à l'industrie à l'élargissement, en point de croix, et dans un cadre plein de dorures.
C'est un portrait, et le support est une tapisserie offerte par la Turquie, une institution turque, une entreprise turque, je ne sais pas trop, mais qui est là depuis très longtemps.
Et là devant nous, il y a
devant
deux...
Devant nous, ce sont deux fauteuils... En bois massif, dont les pieds et les accoudoirs sont des lions, dont le dossier représente un éléphant, qui sont deux beaux fauteuils très lourds et imposants en bois, qui ont l'air d'être d'une seule pièce, et qui, je crois, viennent d'un ancien commissaire au développement, et je crois bien de Louis Michel, mais c'était avant ma période. Ceci est une coupe offerte par un président des États-Unis. Ici, on a le buste du Mahatma Gandhi, une encyclopédie universelle qui vient de Slovénie.
Des cadeaux, il devait y en avoir une centaine dans cette cave. Et s'ils finissent là, ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvais goût, enfin pas tous, mais parce que la règle, quand on est commissaire européen, c'est qu'on ne peut pas repartir à la maison avec les cadeaux que les grands de ce monde vous ont offerts.
Les règles ont été fixées pour la dernière fois en 2011, donc sous la commission Barroso. Elles prévoient que les commissaires ne peuvent pas conserver de cadeaux d'une valeur supérieure à 150 euros et que s'il recevait un tel cadeau, il devrait le remettre au service du protocole, qui est dont j'ai la responsabilité.
Et s'il n'y a qu'une centaine d'objets dans cette cave, c'est qu'on ne se fait plus beaucoup de cadeaux entre puissants, sauf dans les grandes occasions. Et puis, seconde raison pour ces étagères un peu vides, le recyclage.
Quand une réutilisation du cadeau est possible, nous le donnons à une association qui est purement européenne, qui fête cette année ses 40 ans et qui s'appelle Femmes d'Europe, et qui reçoit les cadeaux pour les mettre aux enchères, qui essaie d'en tirer le prix maximum. Et l'argent qui est recueilli sert à financer des projets sociaux en faveur de l'éducation dans des pays d'Afrique, dans des pays en développement, dans des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, mais aussi dans les pays de l'Union, là où il y a un besoin en éducation sociale particulier.
C'est de l'économie circulaire, tout se recycle.
Quelque part, tout se recycle. Alors, sauf ce qui ne peut pas se recycler. Je veux dire, à part Monsieur Verheugen, je ne sais pas qui souhaiterait avoir un portrait de l'ancien vice-président Verheugen, en tout respect, dans son salon.
La mondialisation du marché des produits alimentaires a des effets étonnants. Ainsi, une part de plus en plus importante des grenouilles et des escargots de la cuisine française est désormais importée de Turquie, un pays qui n'en consomme pas mais qui en cultive et en exporte, précisément dans la province de Marmara, en Turquie, à Nandlauer.
Manger une douzaine d'escargots au beurre persillé, ou bien des cuisses de grenouille à la crème et à l'ail, ce serait une hérésie, une aberration culinaire pour une immense partie des Turcs. Et pourtant, beaucoup ignorent que leur pays produit et exporte chaque année des milliers de tonnes de ces mets, lesquels se retrouvent notamment dans l'assiette des Français qui ignorent souvent leur provenance. L'affaire n'est pas nouvelle, cela fait des années que quelques entreprises, implantées pour la plupart dans la région de Marmara au sud d'Istanbul, se partagent ce marché juteux. La société Kocaman, leader du secteur, exporte à elle seule chaque année 3000 tonnes d'escargots, qui représentent 70% de ses exportations, auxquelles s'ajoutent entre 300 et 400 tonnes de grenouilles. Le menu est varié, escargots avec ou sans coquilles, vivants ou congelés, mais aussi coquilles seules, grenouilles entières ou découpées. Les hommes de culture ne manquent pas. La Turquie profite de larges plaines très appréciées des escargots, ainsi que de grandes zones humides où la pêche des grenouilles est autorisée, bien que réglementée. L'an dernier, l'entreprise Kocaman disait avoir gagné 15 millions de dollars grâce à ses clients étrangers, et cette année encore, la société s'attend à des profits records. Entre avril et juin, ses exportations de grenouilles et d'escargots vers la France ont augmenté de 35% par rapport à la même période l'année dernière. Les producteurs attribuent ces chiffres à l'Euro de football, que la France accueillit en même temps que des milliers de nouveaux touristes. Or, qui dit tourisme dit souvent gastronomie française à l'honneur et autres escargots au beurre. On apprendra enfin que la Turquie a donné son nom à un escargot, l'escargot turc ou Helix lucorum, apparemment introduit en France à la fin du 19e siècle dans des jardins proches de Lyon. Désormais, il est signalé en Haute-Provence, dans les Alpes, l'Ariège, le Cantal, le Vaucluse ou encore la Charente-Maritime. À ne pas confondre, bien sûr, avec le célèbre escargot de Bourgogne, sous le nom duquel il est parfois vendu à tort.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et bien sûr sur notre site rfi.fr à la rubrique émissions.